Bonjour Jacques.
Bonjour Clara Le Coq-Réal.
Pour le journal des idées, ce matin, les médecins de l'hôpital de Berlin, Jacques, où est soigné l'opposant russe Alexeï Navalny, ont confirmé son empoisonnement.
Mais oui, monsieur Navalny se trouve dans une unité de soins intensifs et il est toujours dans un coma artificiel, précise le communiqué de l'hôpital, ajoutant que son état de santé est grave mais que sa vie n'est pas en danger. Les médecins redoutent des séquelles à long terme, en particulier dans le domaine du système nerveux. Les autorités allemandes ont appelé Moscou à faire la lumière sur cette tentative d'assassinat, mais après avoir été saisi dès le matin du 20 août par les proches de Navalny, la justice russe n'a toujours pas ouvert la moindre enquête. Et l'embarras du pouvoir russe se mesure à l'aune du silence assourdissant des politiques ou du ministère des Affaires étrangères, pourtant si prompt à réagir au moindre développement de l'actualité internationale, relèvent Thomas Vider et Benoît Vitkin dans Le Monde. Les médias, dont certains avaient diffusé ces derniers jours des théories fumeuses sur l'alcoolisme d'Alexeï Navalny ou son régime minceur, joue désormais les équilibristes. Et dans un sophisme dont elle a le secret, la directrice de la chaîne RT France estimait que la clinique de la Charité où Navalny est hospitalisé ne pouvait pas dire autre chose que ce qu'on attendait d'elle. Benoît Vitkin développe dans un autre article du quotidien une analyse du système verrouillé qui éclaire le fait que depuis 20 ans, les agressions et meurtres à caractère politique commises en Russie contre des responsables politiques ou des journalistes ont en commun de rester sans coupable, la justice fonctionnant en l'occurrence comme un cul-de-sac. L'impunité, je cite, est plus qu'une décision politique, elle est un mode de fonctionnement. Par principe, on ne lâche pas les siens, les svoy, ceux des services ou de l'élite politique. Lorsque le Royaume-Uni, en 2007, désigna les responsables de l'assassinat de l'ancien agent Alexandre Litvinenko, la réponse de Moscou fut d'offrir un fauteuil de député au chef du commando. Quant aux conséquences diplomatiques en Europe, pour la Süddeutsche Zeitung, relayée par Courrier International, la chancelière Angela Merkel vient d'apporter une première réponse en plaçant Alexeï Navalny sous protection policière à l'hôpital de la Charité, démontrant ainsi qu'elle croit Vladimir Poutine capable de tout. L'affaire Navalny et l'engagement de Moscou contre l'atteinte à la vie d'opposants inconfortables comme instrument politique s'apprête à déterminer l'avenir des relations non seulement entre l'Allemagne et la Russie, mais aussi de la Russie avec l'Occident. Difficile de savoir si Poutine est lui-même le commanditaire, car en dénonçant la corruption des élites, Alexeï Navalny s'est constitué une longue liste d'ennemis personnels. Reste que le mode opératoire porte la signature des services, qu'il s'agisse d'une tentative de meurtre ou d'une simple tactique d'intimidation, les empoisonnements sont presque toujours liés d'une manière ou d'une autre aux services de sécurité, souligne dans Mediapart la politiste russe Tatiana Stanovaya. Et Mathilde Gohanek rappelle qu'Alexeï Navalny était jusqu'ici tenu à l'écart de la politique par les nombreux instruments à la main du président russe, la constitution, la justice, les services de police, pour ne citer qu'eux. Il a même dû, en juillet de cette année, fermer sa fondation sous la menace de sanctions judiciaires et administratives. C'est un cas de figure qui illustre le fonctionnement d'une dictature et d'une censure qui ne disent pas leur nom. La dernière livraison de la revue Communication est consacrée à la post-censure. À l'âge de la censure aurait succédé celui de la surveillance, à l'origine d'une autocensure croissante. Sont ainsi visées les opérations civiles, médiatiques, numériques, de neutralisation des énoncés ou des images jugées perturbateurs. Yoeni Krizanouski a enquêté sur les diverses formes de post-censure de la musique contestataire en Biélorussie et en Russie. Dans ces régimes autoritaires post-soviétiques, si l'aspect formel de la censure est évacué, ces aspects informels continuent à fonctionner. Interdiction de concert, refus du soutien public ou privé, censure dans les médias, harcèlement policier et judiciaire. C'est ainsi qu'un large spectre d'acteurs peut jouer le rôle de censeur à un moment et dans un contexte spécifique. Lors de l'annexion de la Crimée par la Russie et de son implication dans la guerre en Ukraine, la quasi-totalité des concerts de groupes contestataires ont été interdits et leurs protagonistes victimes de violentes campagnes de dénigrement. Des mouvements patriotiques comme les Cosaques ont agressé les Pussy Riot et d'autres artistes ont été dénoncés sur des posters géants dans le centre-ville de Moscou. Dans la plupart des cas, les censeurs paraissaient agir d'une manière relativement autonome, ce qui accrédite l'idée d'une post-censure au caractère diffus et néanmoins structurel.
Correctif, nous tenons à préciser aux auditeurs qu'il fallait bien comprendre que les propos rapportés dans cette chronique sont ceux de la directrice de RT et non de la directrice de la chaîne RT France.